Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Ce soir, nous revenons sur le premier discours sur l'état de l'Union du président Joe Biden devant le Congrès. C'était ce mardi 1er mars 2022. Le chef de l'exécutif américain a détaillé ses grands axes politiques que nous allons décortiquer tout de suite avec nos invités. Eric Manelakiza en votre compagnie depuis la capitale des États-Unis à la mise en onde Lionel Lunamira Gahima. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cette discussion, nous sommes avec Marlene Sefocle de Howard University. Bonsoir.
Bonsoir.
Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Bonsoir.
Bonsoir.
À Dakar, au Sénégal, Dame Babou, présidente de African Communications Network. Bonsoir.
Bonsoir.
Également avec nous, Jean-François Seznec, politologue spécialisé dans les affaires et la finance. Bonsoir.
Bonsoir.
Marlene Sefocle, un discours long de près d'une heure. Vous l'avez suivi du début à la fin. Ennuyant ou intéressant?
Bon, c'était un discours extrêmement intéressant et où le chef de l'État a fait preuve de beaucoup de fermeté, mais aussi a nous a montré une vision du futur qui est tout à fait viable.
Herman Cohen, dans la foulée de son discours, vous avez déclaré sur la voix de l'Amérique que vous êtes fier de votre président.
J'ai été très content sur la fermeté dont il a parlé de l'invasion de l'Ukraine par les Russes. Il était très ferme et il exige que les Russes partent et il dit que les Russes vont souffrir économiquement s'ils continuent à faire cette invasion. Et aussi, sur le plan intérieur des États-Unis, il a parlé des grands problèmes, c'est-à-dire la pandémie qui continue et ce que le gouvernement fait pour améliorer la situation. Il a parlé de l'économie, de l'inflation, et il a donné des solutions spécifiques pour réduire l'inflation. Donc, je crois que c'est un discours très important pour la grande population américaine.
Jean-François Seznec, le président Biden a conclu en disant que l'état de l'Union est fort parce que vous, peuple américain, vous êtes fort. Est-ce votre impression?
Effectivement, il y a eu les chambres du Sénat et de la Chambre des députés, si vous voulez, se sont vraiment mis ensemble et ont donné un support unifié sur l'Ukraine qui était excellent. Je pense que quand même, il y a beaucoup de problèmes qui ne sont pas encore résolus, où il faut que les deux partis principaux se mettent d'accord et le président n'a peut-être pas fait, à mon avis, assez pour essayer d'unifier un petit peu les points de vue. Il a quand même donné beaucoup d'avantages à ce que les progressistes essayent de faire et un peu moins ou plus conservateurs de son propre parti, mais le ton était excellent, à mon avis.
Dame Babou, apparemment, ce discours n'a pas suscité beaucoup de réactions sur le continent africain.
C'est normal parce que ce n'était pas un discours sur la diplomatie américaine, c'était un discours sur l'Amérique et ses peurs du retour de la guerre froide et de ses alliés en Europe qui hésitaient depuis longtemps à discuter sur l'Amérique, sur la voie de la fermeté, mais ces alliés-là aujourd'hui sont obligés, donc le président Biden, qui s'occupait de cette question principalement d'abord, à retrouver tous ses alliés avec toute la fermeté nécessaire. C'est pas surprenant que l'Afrique, qui ne joue pas un rôle dans le cadre de la décision de mener une guerre économique au lieu d'une guerre physique, l'Afrique qui ne pèse pas lourd, ne soit pas prise en compte.
Monsieur Herman Cohen, ce rituel annuel a offert des scènes devenues rares aux États-Unis, des parlementaires républicains et démocrates debout ensemble pour manifester leur soutien à l'ambassadrice d'Ukraine invitée d'honneur. Vous avez salué la fermeté du président Biden. Est-ce que vous pensez que Washington fait assez pour stopper Poutine.
Oui, je crois, parce que les sanctions économiques que le président Biden a annoncées, ces sanctions sont à peine commencées, n'est-ce pas? Mais bientôt, les Russes vont trouver que la Banque centrale ne peut pas communiquer avec le reste du monde. Donc, une banque centrale doit échanger de la monnaie. La banque centrale doit acheter des actions, des fonds. Donc, ce que le président Biden a fait, en effet, gèle l'économie russe. Et dans quelques jours, mais au moins quelques semaines, les Russes vont commencer à trouver que la vie de tous les jours sera très difficile. Par exemple, le taux d'intérêt a monté jusqu'à 20%, c'est-à-dire les prix des éléments de base vont augmenter aussi. Ce sera très difficile pour les familles russes.
Mais entre-temps, toute l'Ukraine sera complètement détruite.
Oui, ça peut être un crime de guerre, à mon avis. C'est un crime de guerre de la part de Poutine. C'est une chose d'attaquer les bases militaires, mais c'est une autre chose d'attaquer les civils, les appartements civils, n'est-ce pas? Donc ça, à mon avis, c'est un crime de guerre. Et ça a été dénoncé par les Nations Unies hier, dans une réunion de l'Assemblée générale.
François Sesnec, il y a eu des sanctions prises, mais c'était après le passage à l'action de M. Poutine. Les États-Unis continuent à acheter du pétrole et du gaz russe, et certains républicains reprochent au président Biden de continuer à donner de l'argent à Poutine.
Écoutez, c'est difficile de dire ce que veut faire le président dans ce cas-là, parce que il est certain que si on fait vraiment un embargo sur l'énergie russe, c'est un embargo qui empêcherait les Allemands en particulier d'acheter du gaz, les Européens d'acheter du pétrole et même les États-Unis d'acheter un petit peu de pétrole. On n'achète que 70 000 barils par jour, ce qui est rien par rapport à la production américaine. Mais il est certain que si vraiment on veut faire une punition économique intense contre la Russie, il va falloir arrêter les exportations de pétrole de la Russie, qui serait très très grave pour tout le monde. Ça va faire monter les prix à la pompe dans le monde entier. Est-ce que vraiment on a la capacité ou la volonté de le faire? C'est difficile de savoir ça. Mais c'est le choix. Si vraiment on veut punir la Russie, il va falloir que tout le monde souffre, en fait. Non seulement les Russes, comme le disait Herman très bien, mais tout le monde, en fait, va souffrir.
Cette guerre en Ukraine, c'est un aspect qui n'attire pas l'attention de l'Américain moyen, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'une confrontation armée que évite toujours le président Biden tient compte de cette dimension?
Le président Zelensky demande du soutien de l'OTAN. Toutefois, il se rallie un petit peu à ce que dit Biden. Il ne demande pas que des soldats et des troupes américaines soient envoyées. Sinon, il pense surtout à la protection aérienne de l'Ukraine. C'est ce qui lui importe. Et aussi l'aspect économique qui est déjà enclenché.
Dame Babou, comment ce conflit est-il perçu au niveau du continent africain?
Je pense que le vote à l'Assemblée générale de la résolution avec autant d'abstentions sur le continent montre que d'abord l'Afrique a été surprise, mais surtout qu'avec la pandémie de Covid-19, on s'est rendu compte que le continent africain n'a pas d'avenir réellement. Au niveau même des alliés les plus proches des États-Unis, on a vu que ce sont les abstentions qui ont été pratiquées par tous ces pays-là. Moi, je pense que l'Afrique vient de se rendre compte que cette guerre-là, elle est dangereuse pour tout le monde, mais elle concerne d'abord l'Europe et elle concerne d'abord les Occidentaux et qu'ensuite l'Afrique, peut-être, n'est pas prête cette fois-ci à faire des guerres par procuration.
Dame Babou, le Sénégal s'est abstenu. Est-ce que vous avez été surpris par l'attitude de Dakar, dont le président Macky Sall est président de l'Union africaine?
Je ne suis pas surpris du tout. D'abord, je pense qu'il a dû y avoir des concertations. S'il y a eu un nombre aussi important d'abstentions et qu'ensuite, n'oublions pas que la Russie, malgré son poids économique faible sur le continent, a beaucoup d'accords connus ou pas connus dans le domaine de la sécurité et autres, et qu'aujourd'hui, les problèmes de sécurité en Afrique apparaissent sous un autre visage. C'est une guerre asymétrique et chaque puissance peut aider des groupes à créer des problèmes dans un pays quelconque du continent. Sur ce plan-là, je pense que je ne suis pas surpris que le président Macky Sall, comme beaucoup de présidents africains, ait adopté une attitude de prudence.
Jean-François Sesnec, l'aspect économique du discours de Biden a attiré votre attention. Quel est votre commentaire par rapport à tout ce qu'il a développé?
Il essaye vraiment de développer l'infrastructure américaine qui en a fortement besoin et ils ont déjà passé bien sûr une grande partie des lois sur ce, pour dépenser l'argent pour augmenter l'infrastructure, mais il y a quand même encore beaucoup de systèmes qu'il faudrait développer, comme par exemple donner plus d'argent pour permettre aux femmes de mettre les enfants dans les garderies, etc., qu'ils devraient développer, mais que les républicains opposent. Et j'ai trouvé que le président ne faisait pas vraiment les compromis nécessaires pour pouvoir faire passer une grande partie de cette participation de tous les gens dans l'économie. Mais il y a quand même fait beaucoup de progrès, mais il y a toujours à essayer de travailler de façon plus proche avec les républicains dans ce cas-là.
Il a assuré que lutter contre la flambée d'inflation que la Maison-Blanche a mis longtemps à reconnaître et qui est certainement son principal handicap politique était sa première priorité. Est-ce qu'il vous a convaincu sur cet aspect?
Non, malheureusement, non, pas vraiment, parce que l'inflation n'est pas vraiment contrôlée par la Maison-Blanche. Hein, les taux d'intérêt vont monter, mais ça, c'est contrôlé par la Réserve fédérale. Le fait qu'il essaye de pousser des lois qui veulent augmenter les salaires minimums aux États-Unis, qui sont beaucoup trop bas, mais forcer ça à passer le Congrès, ça va être très, très difficile. Il faut vraiment qu'il y ait des compromis qui ne soient pas forcément acceptables par les progressistes et avec les républicains.
Herman Cohen, le président Biden a plaidé pour une renaissance industrielle des États-Unis et pour une réduction de la dépendance aux importations produisant en Amérique. C'est un président qui a senti le slogan de Donald Trump.
Oui, je crois que c'est le moment de faire quelque chose. Par exemple, il a parlé d'un endroit dans l'État d'Ohio où le secteur privé va construire des usines pour produire des véhicules électrique. Et il dit qu'au lieu d'importer toutes les pièces pour les véhicules électriques de la Chine, de Taïwan et des autres pays, il faut faire tout ça aux États-Unis et créer des emplois, centaines de milliers des Américains. Donc je crois que les Américains qui ont écouté ça sont très contents. Aussi, je voulais parler d'un autre sujet sur le plan de l'inflation. Il a parlé des soins médicaux. Il a dit que le système médical des États-Unis est le plus cher du monde. Et il veut l'autorisation du Congrès de négocier les prix des médicaments. Et moi, quand j'ai un membre de ma famille qui a la diabète, il veut réduire le prix d'insuline. Parce que quelqu'un qui a la diabète doit prendre une piqûre d'insuline tous les jours, toute l'année. Ça coûte très cher, ça coûte à peu près 9 $ chaque jour. Donc, s'il arrive à réduire le prix d'insuline, ça va faire une énorme différence pour le grand nombre d'Américains qui ont cette maladie.
Marlène Seffort, sur cet aspect socio-économique.
Quand il a parlé de la protection de la famille, on remarque qu'il y a énormément d'applaudissements, un tonnerre d'applaudissements, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très cher aux Américains. On se rend compte de plus en plus que dans le monde industriel, les États-Unis sont, si vous voulez, un peu à la traîne pour ce qui est de, comme le disait M. Cohen, de diminuer le coût des médicaments, mais il y a aussi énormément d'autres sujets qu'il a abordés et qui sont liés à la protection familiale, comme par exemple la question de la crise des opiates, ou opioïdes, comme on dit aux États-Unis. Et ça, c'est un problème très grave dans certains États des États-Unis. Et donc, il a abordé cette question. Il a dit qu'il fallait absolument endiguer ce problème. Il n'a pas abordé aussi la question du cancer. Sa famille et la famille de la vice-présidente ont été affectées par les questions, par le cancer au sein de leur famille. Et il s'agit de pousser davantage la recherche du cancer pour combattre le cancer. Et donc, ça, c'est vraiment très important. Il a également parlé d'augmenter le salaire minimal à 15 $ de l'heure, ce qui est très demandé par les Américains, puisqu'on a bien vu qu'il y a énormément d'Américains qui se sont retirés du marché du travail, justement, parce que durant la pandémie, ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts avec des salaires qui étaient de 7 $ ou 8 $ de l'heure. Donc, tout ça, ce sont des questions qui affectent les familles américaines de façon quotidienne. Ce sont des questions qu'il a abordées avec beaucoup de passion, je dirais.
fait l'Amérique et vous. Nous parlons du discours sur l'état de l'Union du président Biden devant le Congrès américain. Jean-François Seznec, le président Biden a parlé de l'emploi et de la croissance. Est-ce que vous pensez que c'est un discours qui passe au niveau de l'Amérique moyenne?
Ah oui, certainement. Je suis d'accord avec Narelli qu'il a parlé avec beaucoup de passion de tous ces problèmes qui l'ont touché personnellement. Et il a fait ça très bien. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment un consensus au gouvernement entre les chambres, chez les députés en particulier, chez les sénateurs, pour avoir vraiment des lois qui soient très fortes pour pouvoir défendre tout ça. Mais effectivement, il a bien défendu ses idées.
Dame Babou, le président Biden a parlé de l'immigration, notamment régulariser les Dreamers.
Je pense que ce que viennent de dire les deux derniers intervenants en ce qui concerne les politiques sociales et les politiques économiques sont valables aussi dans ce domaine de l'immigration. Les politiques proposées par le président Biden sont très avancées, sont très progressistes, comme il est dans l'économie, mais il a toujours l'obstacle de l'équilibre très très précaire au niveau du Congrès, parce qu'aujourd'hui, même le fait que sur les décrets d'application, il y a des assouplissements extrêmement importants pour les immigrés qui cherchent des papiers, etc. Mais malheureusement, malgré son intention très louable, malgré son combat continu en faveur des immigrés, il se heurte toujours à l'équilibre précaire au niveau du Congrès, en particulier au niveau du Sénat.
Le président Biden a promis qu'il allait investir dans les forces de police face à la flambée de criminalité aux États-Unis et assurer qu'il voulait sécuriser la frontière sud où se succèdent les vagues migratoires. À ses partisans progressistes, il a assuré qu'il se battrait pour défendre le droit à l'avortement menacé comme jamais et pour l'accès au vote des Africains américains. Le président Biden, c'est un modéré dans l'âme. Il s'est donc livré devant le Congrès à cet exercice d'équilibriste politique. Herman Cohen.
Par exemple, pour la question de l'immigration avec les gens qui viennent d'Amérique centrale, il sait que les gens viennent aux États-Unis parce que la situation politique et économique dans Honduras, Guatemala était trop mauvaise. Il a même envoyé son vice-président dans ces pays pour encourager les réformes économiques et politiques pour que les gens ne viennent pas aux États-Unis. Dans un certain sens, sa politique envers ces gens-là, c'est la même que l'ancien président Trump, à mon avis. Les Américains, surtout dans la classe moyenne, ne veulent pas voir des gens de couleur arriver aux États-Unis. Il faut le regarder en face, n'est-ce pas?
Marine Sefocle, comment vous avez trouvé le président Biden dans cet exercice d'équilibriste pour satisfaire les deux tendances, disons, de l'Amérique?
Oui, il a essayé de satisfaire les deux tendances qui sont présentes aux États-Unis, mais ce qui manquait, c'était peut-être un peu plus d'emphase sur les droits civiques, les droits des Américains, le droit de vote, le John Lewis Act. Ça, c'est très important. C'est extrêmement important pour préserver la démocratie aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas aller en guerre, si vous voulez, ou reprocher telle et telle chose, par exemple, à un certain Poutine, et puis, dans son propre pays, ne pas préserver les droits civiques. Et préserver la préservation des droits civiques, c'est extrêmement important. Et quand, dans les années 60, quand il y a eu les droits civiques, le Immigration Act est venu juste après, par le biais des droits civiques. Donc l'Amérique change de tous les jours. Il y a une partie, évidemment, de la population américaine qui veut mettre un frein à l'immigration des personnes de couleur, mais ça, ce n'est qu'une partie des États-Unis. Il y a l'autre partie des États-Unis qui est pour une immigration qui soit juste, une immigration qui vienne de différents, qui soit diverse. Donc il y a là tout un débat, mais je pense qu'il aurait pu mettre un petit peu plus l'emphase, le président Biden aurait pu mettre un petit peu plus l'emphase sur justement sur la question du John Lewis Act. Il l'a mentionné, mais c'était vraiment très rapide.
Mais il a quand même mentionné sa nomination de la juge noire pour la Cour suprême.
Oui, absolument. Ça, il fallait la mentionner. C'est un pas en avant, c'est un grand progrès, parce que, si vous voulez, très souvent, les femmes, on pense par exemple à la mère de Emmett Till, mais il y a eu énormément d'exemples dans l'histoire américaine où les femmes noires américaines et africaines-américaines ont été surtout les victimes de la justice américaine. Pourquoi ? Parce que c'était ou leur époux, ou leur fils, ou leur frère qui se retrouvaient dans des situations d'injustice où elles ont dû vraiment à se battre. Donc avoir une femme noire à la Cour suprême, ce n'est que quelque chose tout à fait normal. Et donc lui-même, il en a pris conscience et pendant sa campagne électorale, il a insisté sur le fait qu'il allait nommer une femme noire à la Cour suprême et je pense que ce n'est que quelque chose tout à fait normal.
Jean-François Cesnec, on a vu à un certain moment le sénateur Ted Cruz applaudir le président Biden. Est-ce que ça vous a surpris, lui qui a contesté la certification de sa victoire?
Oui, j'avoue que je n'ai pas vraiment remarqué le fait que Ted Cruz avait applaudi, mais je pense qu'il a certainement applaudi pour l'Ukraine. Il ne pouvait pas faire autrement. Mais effectivement, il est certain que Ted Cruz trouve toujours quelque chose de négatif à dire vis-à-vis du président. Voilà. J'ai peut-être un point que je voudrais peut-être, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, vous m'aviez posé la question, sur le fait que le pays est en fait en ce moment, au point de vue économique, marche très bien, il y a un plein emploi, le plein emploi, et je pense que là où le président aurait pu faire un effort, si vous voulez, c'est de parler de l'immigration, qui en fait faciliterait le fait que beaucoup de gens veulent travailler ou peuvent travailler, et beaucoup d'employeurs voudraient avoir plus de personnel, et ils ne peuvent pas l'avoir parce qu'il n'y a pas assez d'immigration. Donc on pourrait faire, si vous voulez, un compromis entre les deux. Je pense qu'au Congrès, ça va peut-être être plus avancé que le président n'a pu le faire. Mais autrement, il a fait ce qu'il peut, bien sûr.
Ted Cruz a applaudi quand il a parlé d'investissement dans les forces de police.
Ah, oui, c'est ça.
Il va applaudir pour ça. Oui.
Dame Babou, le président Biden, avant son discours, c'est quelqu'un qui est populaire selon les sondages. Est-ce que vous pensez que ce discours va lui permettre de remonter au niveau de sa popularité?
En tout cas, moi, après 30 ans de vie aux États-Unis, je vois que les sondages, c'est des phénomènes de courte durée. Et ce n'est pas nécessairement un discours qui va avoir un impact prolongé sur la popularité ou non du président des États-Unis. Je pense plutôt que les questions économiques, comme le dernier intervenant vient de le dire, Biden n'a pas fait beaucoup de promotion de réalisation de l'économie américaine depuis un moment. Je pense que ces questions-là vont revenir peut-être au front et vont l'aider à rebondir au niveau des sondages. Et l'Ukraine, effectivement, comme tout le monde l'a dit, c'est presque l'unanimité, à part une fraction mineure autour de Donald Trump. C'est ça qui va peut-être l'aider à rebondir dans les sondages. Mais avant le mid-term, je serais surpris de voir un changement profond dans le cadre des sondages et de sa popularité.
Monsieur Herman Cohen, est-ce que vous pensez qu'il va remonter la pente?
Je crois qu'il va remonter la pente. Et ce qui est important, c'est l'inflation. Pour chaque famille, ils achètent dans l'épicerie tous les jours ce qu'ils vont manger pour déjeuner et dîner. Et tant que les prix de ces choses montent, il ne sera pas populaire. Mais s'il arrive à réduire les prix avec plusieurs mesures, surtout pour le prix de santé, je crois que petit à petit, il va monter la pente dans la popularité.
Jean-François Cesnec,
il va remonter la pente dans la popularité, que sa cote de popularité va augmenter, surtout après ce discours qui est un discours qui est quand même très rassembleur.
Jean-François Cesnec, il a encore du pain sur la planche?
Ah oui, certainement, il a du pain sur la planche. Et le problème, c'est que les problèmes que nous avons à l'heure actuelle avec l'Ukraine vont faire monter les prix assez fortement. Il va avoir du mal à contrôler l'inflation. Et ça, je suis d'accord avec Herman, que c'est un problème très important, vital pour le président, mais je ne vois pas vraiment où il peut vraiment faire beaucoup d'actions pour limiter. Ce que disait Marilyn plus tôt est très vrai, le prix, s'il peut limiter le prix des dépenses de santé, ça aiderait énormément, mais ce ne sera peut-être pas assez suffisant parce qu'il faut limiter l'augmentation du prix des céréales et de l'essence en particulier.
Merci, nous arrivons au terme de cette édition de l'Amérique et vous. Merci à Madame Marlene Sefok de Roi d'University.
Merci.
Merci à Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
C'était un plaisir pour moi.
Merci à vous, Jean-François Seznec, politologue spécialisé dans les affaires et la finance.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous, Dame Babou, président de African Network.
C'était un plaisir pour moi.
Eric Manilakis a été avec vous à la présentation. Lionel Manilagaïba a